Exactement. Parmi les choses qui ont été étonnantes hier, c'est la bonne entente entre tout le monde à la Maison-Blanche. Et on a au bout du fil Luc Laliberté, ex-enseignant en histoire des États-Unis au Cégep Garneau et chroniqueur politique, notamment à notre station sœur à Montréal, c'est-à-dire le 99.5 Montréal. Luc, comment vas-tu?
Oui, bonjour, je vais très bien et toi?
Ah, ça va super bien. Luc, on manque pas d'actualité, surtout d'actualité politique internationale, politique américaine. Est-ce que tu as été comme moi et Max, c'est-à-dire que tu as été surpris par la capacité d'écoute et je vais le dire comme ça, d'union que Donald Trump a démontré hier avec l'Union européenne et l'Ukraine?
Ben écoute, ça a été, je pense que c'était le reflet de quelque chose qu'on ne voit jamais. J'essayais de trouver un équivalent dans l'histoire récente de nombreux chefs d'État qui suspendent soudainement toutes leurs activités pour prendre l'avion puis se diriger vers Washington. Donc, on avait un contexte qui était vraiment hors du commun.
C'était historique, Luc.
Oui, c'est on j'utilise jamais le terme de manière négligente, hein, ça sort bien le sous-peser. C'est effectivement un moment historique auquel on a assisté. Il n'y a pas d'équivalent. Écoute, j'essaie de remonter les rencontres qu'on a eues. Il y avait toujours des préparatifs avant. Dans ce cas-ci, c'est OK, vous voulez parler à Zelensky? Nous, on embarque puis on arrive. Donc, on a l'impression qu'il n'y a même pas eu d'invitation. Hein. C'est qu'on a fait débarquer M. Starmer, on a fait débarquer le président français, M. Macron, donc Mme von der Leyen pour la Commission européenne. Tout ça pour dire Mme Meloni pour l'Italie. Il y avait de gros joueurs autour de la table hier. Et dès le départ, le ton était très différent. D'abord, on a vu que Volodymyr Zelensky, ça peut avoir l'air hein, du cirque ou de la mise en scène, mais c'est quand même intéressant comme stratégie. La dernière fois, il avait été littéralement humilié hein, devant les caméras, ça avait fait le tour de la planète. Donc, cette fois-ci, il est arrivé habillé différemment. Donc, c'était pas veston-cravate, mais c'était pas non plus les vêtements qu'il porte habituellement et qu'il dit qu'il va porter tant que son pays est en guerre. Et il avait l'air, et on essaie d'imaginer, là, on parle de quelqu'un dont le pays est en guerre depuis 3 ans, qui a perdu un nombre de vies humaines considérable, puis dont une partie du pays est mise à feu et à sang. Et ce gars-là se présente et est même capable de faire des blagues avec des journalistes ou des pseudo-journalistes. Et hier, c'est Donald Trump lui-même qui a dit, voyez le journaliste qui est là, c'est lui qui vous avait reproché votre tenue vestimentaire la dernière fois. Et Zelensky a dit aux journalistes, ben, vous voyez, moi, je suis capable de changer. J'ai un nouveau costume. Vous avez le même costume que la dernière fois. Donc, mais en même temps, c'est presque surréaliste. Pensez aux dizaines de milliers de morts. Les Russes aussi, en passant, au mois de juillet, c'est 20 000 morts russes pour les faibles gains qu'on obtient sur le terrain. Mais en même temps, du côté ukrainien, ce sont des milliers et des milliers de morts depuis le début du conflit. On parle de 3 ans. Mais le gars est quand même capable, Zelensky, de se présenter, d'avoir l'air décontracté, donc puis de même faire des blagues. Et ensuite, j'ai remarqué, pour encourager M. Trump, probablement à plus de patience ou d'ouverture, que tout le monde a pris le soin. C'en est presque drôle, encore une fois, si le fond n'était pas si dramatique. Les meneurs européens qui ont tous pris la peine de souligner le rôle de Donald Trump et de le remercier. Et pourtant, puis on pourra en discuter si tu en as envie, moi j'ai l'impression qu'on n'a absolument rien réglé hier, puis que, écoute, presque tout est à faire. Faut souligner le ton, c'est important, faut souligner l'initiative ou le président qui accueille tout ce monde-là à la Maison-Blanche. Mais il y a tellement à faire encore. C'est un processus qui pourrait être très, très, très long.
Tu as tellement raison. Avant de parler justement de ce qu'il y a à faire, est-ce que, parce que moi, ce qui a attiré mon attention, c'est quand tu as dit tout le monde a sauté dans un avion, est arrivé à Maison-Blanche, il n'y avait même pas eu de carton d'invitation. Est-ce que l'Union européenne a démontré sa force géopolitique hier?
Bien, on a démontré en tout cas qu'on était prêt à jouer en équipe. C'est pas toujours le cas. Alors, souvent, on parle de l'Union européenne, on échappe ça dans une conversation, puis ça va de soi que ces gens-là sont d'accord. Mais il y a des gens qui ont des intérêts divergents autour de ça. D'ailleurs, il y avait le Royaume-Uni qui était là, qui n'est pas dans l'Union européenne. Donc, on a des gens qui ont des intérêts différents. C'est pas tout le monde qui voulait non plus s'impliquer en Ukraine de la même façon. Mais là, hier, tout ce monde-là a pas mal parlé à l'unisson. Il n'y a pas eu beaucoup de notes discordantes. Sinon, M. Starmer qui a dit, moi, je vois pas qu'on puisse aller de l'avant s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Parce que ça, dans le discours de Donald Trump, c'est une chose qui a changé. Il avait dit le temps des négociations, il y aurait un cessez-le-feu. Puis hier, ça aussi, il faut le rappeler, pendant qu'on négociait hier ou pendant qu'on parlait, les Russes continuent à attaquer en Ukraine. Donc, M. Zelensky, son pays est attaqué au moment où il est assis à la Maison-Blanche. Donc, pour les Européens, ça montre bien à quel point, un, ils sont devenus l'appui le plus important, plus que les États-Unis, si on parle de volonté, si on parle de discours, puis de plus en plus si on parle d'efforts. Ça montre bien qu'ils ont peur aussi. Et ça, de notre côté de l'océan Atlantique, on oublie ça parfois, on est loin du théâtre des opérations. Mais si l'Ukraine tombait, ou s'il y a des difficultés pour l'Ukraine, ben là, Vladimir Poutine est rendu vraiment en Europe. Donc, en termes de sécurité, de progression territoriale, les Européens ont tout intérêt à ce que l'Ukraine tienne et à ce que l'Ukraine ne soit pas humiliée dans le processus de paix si jamais on parvenait à une paix. Donc, ça, c'est l'autre chose que j'ai remarqué hier. C'est, on parle souvent, c'est une belle expression, mais c'est lourd de conséquences. Est-ce qu'il peut y avoir une paix honorable ou une paix juste? C'est le terme qu'on utilise pour l'Ukraine. Moi, j'ai rien entendu hier qui nous montre que s'il y a une paix, ça sera pas au détriment de l'Ukraine et que la Russie n'aura à peu près rien à céder. Ce n'est pas le cas, en tout cas. C'était une première rencontre là en urgence, mais j'ai rien entendu hier de rassurant. Si ce n'est le fait que les Européens et Donald Trump ont dit « on va protéger l'Ukraine ». Donc, jusqu'à quel point la Russie, depuis 1994, ne fait que des gains en Ukraine. Donc, on a renié des ententes qu'on avait signées en 1994, on est entré en Crimée. Qu'est-ce qui nous dit que la Russie ne serait pas tentée de reprendre le travail dans quelques années quand on aura refait nos forces? Hein, puisqu'on aura, entre autres, laissé reposer nos militaires. Donc, tout ça est en suspens après la rencontre d'hier.
Je t'écoute, Luc, puis alors que plusieurs voyaient hier un genre de bon travail de Donald Trump ou du moins quelque chose de respectable, puis de ton côté, t'as l'air encore très, très, très sceptique. Est-ce que t'es capable d'admettre que hier, Donald Trump avait plus l'air d'un chef d'État qu'à l'habitude, ou pour toi, c'est vraiment juste le contexte qui a fait ça, puis Trump a pas ben, ben de mérite?
Non, c'est l'impression que ça laisse, c'était pas là où j'allais. J'ai aimé, on ne va pas, quand on est en guerre, bouder une tentative de réconciliation, de négociation ou une démarche qui est positive. Et hier, dans les choses positives qu'on peut souligner, c'est Donald Trump lui-même qui répondait aux questions, et non pas, parce qu'ils étaient là, Marco Rubio, son secrétaire d'État, ou encore J.D. Vance, qui est le vice-président, qui avait mené la charge contre Zelensky la dernière fois. Donc, l'idée, c'est pas d'atténuer la portée de ce que Donald Trump fait, comme de bien souligner à quel point ça va être long, ça va être difficile. Et en passant, Donald Trump, en pleine rencontre hier, dit « Oups, je vais aller parler à Vladimir Poutine ». Une des stratégies des Européens hier, c'était d'avoir M. Trump tout seul, puis de tenter de le ramener à de meilleurs sentiments sur l'Ukraine ou sur l'Europe, de lui rappeler certains enjeux, sans qu'il y ait d'interférence. Et hier, on a dit, on va quand même offrir ça à Vladimir Poutine. Je répète, Vladimir Poutine, c'est un fin renard. C'est un des meilleurs négociateurs. On peut trouver que c'est dur, on peut trouver que c'est violent, on peut trouver que c'est brutal, voire même barbare. Mais c'est quelqu'un qui, c'est un calculateur froid. Et ce que veut Vladimir Poutine dans ce dossier-là, pour le moment, c'est gagner du temps. Et finalement, on lui en donne. Il en obtient. Je répète encore, on ne l'a pas vu faire de concessions. Mais oui, c'est important de souligner l'effort de Donald Trump. M. Trump se présente, puis il a partiellement raison, comme un facilitateur de paix. On sait qu'il rêve du prix Nobel assez pour contacter des gens directement pour leur dire « je mérite le Nobel de la paix ». Donc, il a ça en tête. Mais est-ce que ces efforts-là, hier, nous ont donné, un, des résultats, puis nous permettent d'être vraiment très optimistes? C'est un peu là, finalement, où je veux m'assurer que quand les gens suivent ce dossier-là, ils comprennent bien à quel point on est encore loin du compte, que le plus difficile reste à faire. Mais c'est une bonne chose qu'on se soit parlé et rencontré hier.
Pour rappel, on parle avec Luc Laliberté, ex-enseignant en histoire des États-Unis au Cégep Garneau et chroniqueur politique, notamment au 99.5 Montréal. Luc, tu parlais de temps, justement. Est-ce que 10 jours, c'est trop long pour élaborer ce fameux plan de sécurité qui a été mentionné là, notamment par Emmanuel Macron hier. Est-ce que ça laisse trop de temps à Poutine pour gagner encore du territoire, lui qui n'a rien concédé?
Ben, c'est surtout du temps, puis j'ai hâte de voir, pour les. Quand je disais qu'il y avait des intérêts qui étaient parfois divergents pour les Européens, se présenter comme les défenseurs de la sécurité ukrainienne, c'est pas un engagement qui est profond. Puis j'essaie d'expliquer ça un petit peu. C'est ce que les Européens ont en tête, c'est l'article 5 des règles de l'OTAN. L'article 5, ça dit finalement, s'il y a une attaque contre un pays de l'OTAN, c'est une attaque contre tous les autres pays de l'OTAN. Donc, on a dit hier, Mme Meloni, par exemple, l'italienne, a dit, on envisage quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Parce que s'il cède, bien sûr, ou s'il signe un traité, ou s'il s'entend avec Poutine, Zelensky doit laisser tomber cette volonté d'entrer, de joindre les rangs de l'OTAN. Ça, pour Vladimir Poutine, ça semble ferme, ça semble inébranlable. Il faut savoir que ce fameux article 5, c'est intéressant. Hein, on a signé ça après la guerre en disant ben on se protège entre nous, on assure notre sécurité. Puis on a surtout fait ça après le 11 septembre 2001 quand les États-Unis ont été attaqués. Donc l'OTAN puis l'article 5, c'est suite à des événements qui étaient très graves, à des événements majeurs, mais c'est pas contraignant. C'est pas obligatoire, ça veut pas dire si la Russie reprenait par exemple les hostilités ou relançait les hostilités, qu'assurément, la France va être sur le terrain pour protéger, l'Allemagne va être sur le terrain, l'Italie sur le terrain. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la même capacité de frappe. C'est pas tout le monde qui a la même économie, les mêmes relations avec la Russie ou avec l'Ukraine. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va sortir. J'ai pas de boule de cristal, mais cette rencontre-là d'une dizaine de jours pour assurer la sécurité, c'est un bon test déjà pour les Européens. Il y a Zelensky qui attend pendant ce temps-là puis qui, lui, voudrait bien avoir des garanties solides. On veut pas se faire piéger ou trahir comme on l'a déjà été auparavant dans l'histoire fin 20e, début 21e siècle. Mais il y a énormément de précisions à ajouter. Et moi, si j'étais Volodymyr Zelensky hier, je suis content qu'on se parle. Je suis content qu'on parle de ma sécurité. Qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir des détails? Et ce matin, bon, on n'en a pas beaucoup. Donc, ça va être très important à suivre pendant ces 10 jours-là. Quel va être le résultat? Quelles sont finalement les contraintes des pays européens ou des pays de l'OTAN pour venir en aide à l'Ukraine et s'assurer que Vladimir Poutine ne recommence pas ce qu'il a fait en 2014 en prenant la Crimée ou en prenant de petites portions de ce qu'on appelle le Donbass.
Au niveau là, de bataille justement livrée par l'Ukraine et l'Union européenne, c'est cette fameuse différence entre le cessez-le-feu et le traité de paix. Et hier, on s'est pas engagé justement sur un cessez-le-feu. Donc, est-ce que ça, tu vois ça comme une défaite de cette grande brigade européenne-là qui s'est présentée à la Maison-Blanche?
On a vu d'abord qu'il y avait une légère discordance. C'est un des rares moments où ils n'ont pas tous dit la même chose.
Oui, avec le chancelier allemand, là, Friedrich Merz, là, autour de la table, là, justement. J'ai écouté le fameux 30 minutes autour de la table ronde.
Bon, voilà. Donc, c'était une des rares notes discordantes parce que tout le monde était poli. Le ton, c'était presque convivial.
Oui.
Mais on a senti quand même quelques points divergents. Et l'autre chose, c'est qu'on s'adapte aussi. C'était pas évident. Faut éviter. Hier, on voulait que ça se passe bien, qu'on sorte de là en disant au moins cette rencontre-là s'est bien déroulée. Et c'est Donald Trump le premier qui a pris la peine de souligner que le cessez-le-feu, alors que lui avait dit que c'était une condition, le cessez-le-feu, c'était plus sur la table.
Mm-hmm.
Trump s'est présenté.
Et ça, c'est suite à sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska vendredi.
Voilà. Puis de sa rencontre avec Vladimir Poutine, on a carrément l'impression que lui, il ne s'est pas effondré. Ce serait très malhonnête de dire que Donald Trump a perdu ou qu'il a trop cédé. Mm-hmm. Mais c'est clair qu'en Alaska, celui qui gagnait en partant, c'était Vladimir Poutine. Il ne cédait rien, puis il pouvait gagner du temps et poursuivre ses entreprises sur le terrain. Donc, hier, quand on s'est rencontrés à Washington, là, c'est M. Trump qui a dit « Non, le cessez-le-feu, moi, je veux aller directement à la paix. » Mais c'est pour ça, tantôt, que j'insistais sur l'initiative est bonne. Mais avant d'arriver à une paix, moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va exiger de Zelensky, parce que la région qu'on veut, si on a une carte, hein, si nos auditeurs vont voir une carte, vous regarderez la région du Donbass, puis allez voir ce qui est possédé ou ce qui est sous contrôle, pardon, actuellement des Russes. M. Poutine veut même plus qu'un territoire où sont ses soldats. Et ça, ce serait inacceptable. Bon, M. Zelensky, on est dans un centre économique, c'est la métallurgie qui est là. On ne peut pas céder tout ça à la Russie. Donc, quelles seraient les véritables concessions de Poutine là-dedans? C'est là où je dis, oubliez le cessez-le-feu puis passez directement à la paix. Un, c'est un saut qui est, c'est un bond qui est énorme avec bien peu de détails sur les volontés réelles de Vladimir Poutine.
Luc, je termine là-dessus. Selon toi, dans ta boule de cristal, à quand vois-tu cette fameuse rencontre-là? Zelensky, Poutine, Trump et peut-être l'Union européenne là-dedans?
Écoute, ça, tout est possible. Ça pourrait se faire à brève échéance, tout dépendant de ce que M. Poutine est prêt à mettre sur la table. Parce qu'on ne va pas se lancer là sans avoir plus d'informations, je pense. Donald Trump a probablement un petit peu plus d'informations que la plupart des autres parties prenantes à ces discussions-là. Donc, ça peut survenir assez vite. Mais encore là, je répète, est-ce que M. Poutine est ouvert à un dialogue où il ne récupère pas tout ce qu'il demande? Est-ce que c'est uniquement une position de négociation actuellement? Ou s'il est ferme et qu'il reculera nulle part dans ses demandes? Là, dans ce cas-là, ben écoute, si je suis Zelensky, ça vaut même pas la peine de se présenter, ou à tout le moins, il n'y a rien à espérer pour alors une paix juste.
En effet, parce qu'il faudrait pas que Vladimir Zelensky se retrouve dans une même situation que sa première visite à la Maison-Blanche.
Voilà. Donc, voilà.
C'est certainement, c'est sûr qu'il va prendre ses précautions. Luc, la liberté, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup pour ta fine analyse de cette rencontre historique à la Maison-Blanche et au plaisir de te reparler bientôt.
Ben, bonjour à toute l'équipe puis à nos auditeurs aussi. Merci.
Salut Luc, merci beaucoup. Alors, Luc Laliberté, ex-enseignant de l'histoire américaine au Cégep Garneau et également là, chroniqueur politique dans plusieurs médias, notamment Journal de Québec, Journal de Montréal et au 99.5 Montréal, notre station sœur là-bas. Donc, encore beaucoup de choses à régler, mais au moins, Max, ce qu'on retient, c'est un ton cordial et une, je vais le dire comme ça, une réelle ambition d'avancer dans ce dossier-là pour arriver à une paix.
On a mis la table, mais là, le souper est encore dans le four et n'est pas prêt encore. Là.
C'est ça.
Il reste des ingrédients à faire, puis après ça, ben il va avoir le dessert à préparer, faire le gâteau, tout ça. Ça peut être long encore. Là.
Ouais.
Il y a du stock. Là, dans faire le souper, puis après ça, faire le dessert. Il y a beaucoup d'ingrédients à aller chercher, puis ils sont peut-être pas tous dans le frigo. Là.
Exactement. Clairement que ça va se produire dans les 10 prochains jours, parce qu'on a promis hier à Vladimir Zelensky d'arriver avec un plan de sécurité à l'intérieur de 10 jours. Alors, c'est vraiment là qu'on va voir justement comment ce dossier-là peut cheminer. Est-ce que Sam Ahmad fait du maraudage auprès des candidats de Québec forte et fière? C'est la question qu'on va lui poser dans quelques minutes après cette courte pause à Boulevard Again ce matin. Vous êtes sur Boulevard 102. On parle avec le chef de Leadership Québec dans quelques instants. Jusqu'à 10h, Boulevard.